best-seller de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde. Jean-Marie Colombani, bonsoir à vous.
Bonsoir Roselyne.
Alors que l'hypothèse d'une majorité absolue pour le Rassemblement national semble s'éloigner dans le brouillard politique français, c'est désormais un scénario virtuel qui prend une forme plutôt baroque. À 3 jours du scrutin, Emmanuel Macron se prend à rêver d'une coalition qui irait des Républicains aux socialistes, aux écologistes et aux communistes. La France insoumise, elle, serait sortie du casting. Comment un tel attelage peut-il tenir? Mystère et boule de gomme. Rien ne les réunit excepté le front du refus. Fut des deux extrêmes que le chef de l'État n'a cessé de renvoyer dos à dos. Mais quand les circonstances sont telles, tout s'imagine, en tout cas dans la tête du président. Cette dissolution n'a pas seulement servi à clarifier, mais plutôt à faire éclater l'échiquier politique. La droite a encore une fois explosé en un schisme entre la droite Canal historique et ceux qui se mettent dans la roue du RN. Les insoumis se divisent pour placardiser Mélenchon. L'ex-majorité ne joue pas la même partition pour mettre en musique sa stratégie entre le Nini et le Front républicain, c'est le grand divorce. Comment recoller les morceaux d'une France divisée et traumatisée? On en parle avec nos invités. Bonjour Bruno Jeudy, vous êtes directeur de la Tribune Dimanche.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Nora Amadi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et productrice, merci d'être là. Et bonsoir Carole Barjon, vous êtes éditorialiste politique.
Bonsoir.
Alors la première question, je me tourne vers Bruno, est-ce que le scénario d'une majorité absolue s'éloigne pour le Rassemblement national?
Alors il y a les mathématiques, il y a la politique, mathématiquement, ouais. Arithmétiquement, oui, le scénario d'une majorité absolue s'éloigne, le nombre de triangulaires qui est réduit par 3 rend peut-être la tâche des candidats RN plus compliquée dimanche qu'on avait pu le penser dimanche soir à l'issue du premier tour, ça c'est pour l'arithmétique. Après il y a la politique et il y a aussi la politique et comment les gens, les Français ont perçu cette séquence de la semaine largement dominée par ce front républicain que les états-majors ont essayé de rétablir, de ressusciter par le haut.
Ah, oui.
Il faut voir si par le bas ça fonctionne et est-ce que les Français au fond auront validé en quelque sorte ce système de désistement qui ne vaut pas ralliement, comme l'a dit Gabriel Attal, mais qui peut être perçu aussi par des Français qui vont chercher les bulletins, verront pas celui qu'ils pensaient trouver à l'issue du premier tour. C'est difficile, c'est difficile à mesurer, et c'est la part de l'inconnu qui pèse jusqu'à dimanche. Il faut se souvenir que dans l'entre-deux-tours des législatives de 2002, personne n'a vu passer d'une quarantaine de sièges qu'avaient prévu les sondages au soir du premier tour, les projections au soir du premier tour des législatives à 89, chiffre qu'on ne mesurera que tard dans la soirée. Donc, une surprise est toujours possible.
Ça, c'était pour les Républicains, non?
Non, c'était pas pour les Républicains, c'était pour le RN qui est passé dans l'entre-deux-tours d'une quarantaine, c'était les projections du premier tour,
d'accord.
À 89 au soir du second tour. Et c'était quand même une première surprise et la preuve que le RN pouvait remporter des élections en duel. Je rappelle qu'en 2022, il n'y avait que 5 triangulaires. Cette fois-ci, il y en aura quand même encore un peu moins d'une centaine, je crois, 95 de mémoire.
Ce qui va être compliqué pour les électeurs, c'est un duel Rassemblement national, la France, le nouveau Front populaire.
Bien sûr, mais juste d'un mot pour revenir sur ce que vient de dire Bruno. La référence s'impose avec 2022, en effet, parce que 2022, il y avait, si on regardait les électeurs qui étaient censés, venant de la gauche, qui étaient censés se désister en faveur des élus de Macron, des macronistes, il y a eu une très très forte déperdition. Et beaucoup de gens de droite qui étaient aussi censés pouvoir se désister vers Macron sont allés vers le RN. Donc déjà, on avait cet affaiblissement du fameux Front républicain dans les urnes. Ce qui explique ensuite le score de 89 députés ensuite. Et là, on peut se trouver devant un phénomène de même nature. C'est-à-dire qu'il y a eu en effet une chose assez forte qui a été cette levée en masse, parce qu'il y a eu quand même un nombre de désistements impressionnants. Et donc il y a eu presque spontanément quelque chose qui ressort du Front républicain. Mais après, est-ce qu'il sera compris et assumé par les électeurs? Ça, c'est très, très difficile de le dire et très difficile de savoir, parce qu'une partie des électeurs LR sont quand même très tentés par le RN. et une partie des électeurs de la gauche ne voudront pas voter pour un candidat macroniste. Donc on est quand même là toujours dans une grande incertitude.
Alors on écoutera Gérald Darmanin, mais une question pour vous, Nora. Est-ce que dans le fond, tout simplement, ce qui ne se joue pas là, c'est une sorte de référendum, c'est voulez-vous ou non le Rassemblement national au pouvoir? Est-ce que c'est pas ça qui se joue tout bêtement?
Alors, évidemment qu'au même titre que sur le premier tour, certains ont pu donner cette grille de lecture en disant référendum pour ou contre Emmanuel Macron. Là, clairement, on voit bien que ceux qui essayent de porter cette idée d'une forme de référendum pro-Rassemblement national, Jordan Bardella, Premier ministre, de facto, vont aussi devoir faire face en fait à une réalité arithmétique qui était rappelée à l'instant par Bruno. 11,5 millions de voix sur un corps électoral de 49,5, merci. C'est le spécialiste des chiffres, Bruno.
Oui,
voilà, il n'y a pas d'idée de référendum possible. C'est-à-dire que cette tripartition qui nous conduit aujourd'hui à avoir finalement une forme de fragmentation qui nous rapproche de certains de nos voisins qui ont un fonctionnement à la proportionnelle est d'une part inédit et d'autre part dit bien de peut-être l'impasse institutionnelle dans laquelle on risque de se retrouver. Là-dedans, est-ce que, et vous le disiez à l'instant, ce barrage, ce front républicain, mais ce barrage qui existe depuis maintenant plus de 20 ans, 22 ans, souvenez-vous, avec Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac, voilà, cette fatigue aussi démocratique, bah, va conduire certains à dire bah, « puisque c'est comme ça, stop ». Et on n'a pas beaucoup commenté, je pense, les 67,5% de participants au scrutin au premier tour, ce qui dit quand même qu'un tiers ne s'y est pas rendu. C'est un bon score en termes de participation.
On peut imaginer un réveil au deuxième tour, là.
Eh bien, je ne suis pas certaine, parce que pour le coup, on entend aussi beaucoup de gens dire « c'est bon, on n'y reprendra plus ». Les premiers concernés, en l'occurrence, par les politiques d'exclusion du Rassemblement national, les minorités notamment, que ce soit en termes de genre, sexuel, les minorités ethniques ou religieuses se sont beaucoup mobilisées parce que là, il y a une peur extrêmement claire du risque. Pour le reste, il y a beaucoup de gens, et moi je l'entends beaucoup, sur le côté, voilà, ça suffit les castors, puisque vous le voulez, bah, écoutez, allons-y, et puis on verra bien. Voilà.
On parlera avec vous tout à l'heure de l'image de la France en Europe, mais peut-être on va écouter Gérald Darmanin, dont le candidat France Insoumise, lui, s'est désisté, mais il ne lui rend pas l'appareil, Gérald Darmanin, on l'écoute.
Parce que de manière générale, les consignes de vote, c'est à proscrire. Les Français sont des grandes personnes, ils n'ont pas besoin qu'on leur tienne la main jusqu'à l'isoloir. Ils votent pour qui ils veulent au premier et au second tour. C'est à nous de les éclairer le plus possible sur les enjeux de cette élection. Faire barrage au RN, c'est une nécessité pour chacune et pour chacun d'entre nous. Mais pas au prix de voter pour un candidat de la France insoumise. Moi, j'aime trop la police, j'aime trop les forces de l'ordre, j'aime trop les gendarmes pour pouvoir voter pour un candidat de la France insoumise.
Bon, là déjà, on voit le petit clin d'œil donc à la police dont on dit que beaucoup votent Rassemblement National. Mais là, il n'y a pas de renvoi d'ascenseur pour Darmanin.
Non, mais de toute façon, il y a un changement de ton dans la majorité présidentielle, même si beaucoup s'en démarquent maintenant, à commencer par Gérald Darmanin qui veut jouer sa carte pour la suite. Mais il y a un changement de ton depuis le dépôt des candidatures mardi soir. C'est-à-dire que maintenant qu'il y a eu tous les désistements qui sont connus, et il y en a eu, je crois, 210 ou quelque chose comme ça, tout d'un coup, Gabriel Attal a changé de ton aussi. C'est-à-dire que on a fait des clins d'œil à la France insoumise jusqu'au et au nouveau Front populaire de manière générale,
oui, avec le retrait de la
France, y compris à Mélenchon et à la France insoumise, jusqu'au dépôt des candidatures mardi soir, et depuis hier, là, tout d'un coup, les messages qui sont envoyés sont plutôt pour l'après second tour et pour l'hypothétique formation de cette hypothétique coalition dans laquelle la France insoumise, Emmanuel Macron l'a dit clairement en Conseil des ministres, la France insoumise ne serait pas conviée. D'ailleurs, elle ne veut pas. Oui. Elle n'en veut pas. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ils sont tous sur la même ligne à taper sur la France insoumise maintenant. Oui. Ou en tout cas, à s'en démarquer.
Alors, il n'y a pas que dans le camp macroniste, il y a aussi dans le propre camp de Jean-Luc Mélenchon, donc, puisque François Ruffin, lui, a sorti la sulfateuse.
Dès que je me suis porté candidat, j'ai annoncé que je n'étais pas investi par la France insoumise. Donc pour moi, c'était clair, mais apparemment, ce n'était pas assez pour les électeurs. Donc c'est évident maintenant, je ne siégerai pas dans le groupe La France insoumise si je suis réélu lundi. Ça fait 2 ans, moi, que je dis qu'il faut passer du bruit et de la fureur à la force tranquille. Il faut incarner de la stabilité, de la confiance, rassurer les Français, ça me paraît être la priorité depuis 2 ans.
Voilà, donc Bruno, il se rapproche doucement de la social-démocratie, puisque c'est ce qu'il avait dit en une de l'Obs, on se souvient. Oui. Donc il lâche quoi, et il lâche les amarres, et on pourrait très bien le retrouver dans un gouvernement de coalition.
Je ne sais pas, il faut déjà qu'il se fasse réélire, M. Ruffin. Il lâche autant que la France insoumise le lâche, parce qu'en privé, Manuel Bompard et les autres disent on a réinvesti Ruffin, non pas comme un insoumis, mais parce qu'il a la tête d'un parti associé. C'est pareil pour Clémentine Autain, qui en fait aurait dû être dans la purge comme Corbière, Garrido et les autres. Donc, de toute façon, le divorce est consommé depuis belle lurette entre François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon, qui préfère Mathilde Panot et Manuel Bompard à ses anciens coéquipiers que sont Ruffin et d'autres. Ouais. Il y a une scission au sein de LFI. C'est pas non plus en nombre, c'est pas très très important, mais ça dit beaucoup de ce qui s'installe à l'intérieur de la France insoumise, c'est-à-dire Raquel Garrido parle de la ligne sectaire Mélenchon à l'intérieur des insoumis. Donc là, ils n'ont pas attendu le deuxième tour, hein, ils y vont franco. Ça aura quand même des incidences après le second tour, parce que ce qui va se passer, c'est que les insoumis sont sans doute moins nombreux que ce que tout le monde imagine aujourd'hui. Ah. Et à mon avis, ils peuvent tomber sous les 70, voire 65 députés. Ils étaient beaucoup plus nombreux dans l'Assemblée sortante. Et au moment où on fera le compte, les décomptes entre tous ceux qui seront systématiquement pour des motions de censure, c'est-à-dire en gros le RN et les insoumis purs et durs, on n'aura peut-être pas 289 députés. C'est ça qu'il va falloir regarder dimanche soir. Faudra bien compter cette barre-là.
Après, il y a aussi, et on entendait à l'instant François Ruffin, la nécessité à gauche d'avoir une stratégie de cornerisation de Jean-Luc Mélenchon, ce qui n'est pas évident, parce que de facto, et ça factuellement, mathématiquement, c'est quand même celui qui a porté 22% des voix au présidentiel, et en l'état, aujourd'hui on ne voit pas émerger une candidature susceptible en fait de scorer ce barbarisme autant pour le moment à voir ce qui
mais à l'intérieur de la gauche ils seront peut-être minoritaires les insoumis
et c'est ça qui est intéressant dans la stratégie qui était d'ores et déjà pensée par François Ruffin. Ça fait quand même plusieurs mois qu'on sait qu'il se prépare et que l'objectif est évidemment d'avoir un peu un effet de blast, et c'est un peu ce qui était pensé à l'origine, effet de blast, d'ailleurs un espèce de moments où la gauche social-démocrate de gouvernement rationnel, je ne sais pas comment l'appeler et l'idée n'est pas non plus de la qualifier, humaniste, aurait pu ostraciser Jean-Luc Mélenchon en disant finalement on fait coalition ensemble. On a bien vu qu'en fait la dissolution du président de la République a conduit à une accélération qui ne permettait pas de faire sans la France insoumise. Donc est-ce que du coup ce calendrier qui était prévu à l'origine dans un objectif 2027 peut être reconvoqué dans ce cadre-là de cette recomposition ? L'avenir nous le dira.
Alors, ça va bien arranger ce que disait Bruno. Si les insoumis n'ont plus cette hégémonie, ça va arranger les affaires d'Emmanuel Macron pour cette future coalition. Non, vous dites non, Nora.
On en parlera, mais
oui, c'est totalement flou.
La formulation même surpend aujourd'hui.
C'est clair.
Normalement, on doit pouvoir en effet se dire, mais quelle va être la marge de manœuvre du président de la République ? Que va-t-il faire, quelle initiative
va-t-il prendre ? Mais c'est surtout qu'est-ce qui les réunit
aujourd'hui, tous ? Oui, mais aujourd'hui, quand on se tourne vers le président de la République, plus personne n'attend rien. C'est ça un petit peu le problème.
Et c'est compliqué au président de la République.
C'est compliqué alors qu'il est la figure centrale quand même du paysage politique, et il le restera normalement, sauf s'il cède à la pression.
Il y a un gouvernement de coalition, peut-être qu'il va un peu s'effacer au profit...
Avant le gouvernement de coalition, il peut y avoir un gouvernement soutenu par des gens qui soutiennent sans participer. C'est aussi une des formulations possibles. Il peut y avoir un gouvernement qui ne soit pas censuré par l'Assemblée nationale et qui peut
continuer de faire le PC.
Oui, exactement.
Des gouvernements, certains gouvernements.
Il y a eu d'autres, parce qu'on oublie l'histoire, mais à la Libération, le général de Gaulle instaure la proportionnelle Pourquoi ? Parce que le Parti communiste pèse 30%. Et ouais. Si vous laissez le scrutin majoritaire avec 30% de Parti communiste, voilà. vous livrez les clés.
Ça, c'est l'erreur, c'est l'erreur de Emmanuel Macron.
Exactement. Il de ne pas faire, avoir fait la. Exactement.
Bien sûr, il aurait dû faire ça.
Et suivent ensuite des gouvernements de coalition.
Donc il n'a pas du tout anticipé.
On dit aujourd'hui la coalition, c'est pas possible entre un tel et un tel. Mais en fait, si on regarde de près, qu'est-ce qui sépare un Glucksmann d'un Gabriel Attal, par exemple, sur les questions essentielles, pas sur les questions de gestion de la politique économique.
L'assurance chômage, déjà.
Oui, l'assurance chômage, mais c'est pas l'important aujourd'hui. L'important aujourd'hui, c'est la place de la France, l'Union européenne, son destin, c'est le sort de la guerre. C'est le sort de ce qui se passe à Gaza et au Proche-Orient. C'est ça la hiérarchie la plus importante.
Là, ils sont d'accord.
Et là-dessus,
là,
ils seront d'accord.
Un terrain d'entente.
Ils sont même d'accord avec Emmanuel Macron là-dessus. Et c'est d'ailleurs. Et dans le front républicain, il y a aussi la récusation. Parce que, in fine, qu'est-ce qu'on a vu pendant cette campagne ? On a vu ressurgir le vrai visage du Rassemblement national. Et le vrai visage du Rassemblement national, c'est recréer des catégories de Français. C'est-à-dire recliver entre Français avec l'histoire des binationaux. Bon, ça, c'est évidemment l'abus de témoin qui nous ramène directement à la période de Vichy. On dit on les a jamais essayés. Si on les a essayés, il y a 80 ans. Et il y a 80 ans, l'abus de témoin, c'était ça. C'était faire des catégories de Français différents. La deuxième chose, c'est aussi le respect de l'état de droit. Or, le respect de l'état de droit n'est pas assuré avec le Rassemblement national. Sur le respect de l'état de droit, il y a des gens très opposés, mais qui seront d'accord là-dessus. Ouais. Et sur les questions internationales, vous aurez beaucoup de gens qui seront d'accord.
Vous dites que c'est possible, Jean-Marie.
Je pense que c'est possible, quitte à ce que ce soit un gouvernement d'un an, parce que dans un an, on peut redissoudre, etc. Mais il ne faut pas. Et dans le passé, il y a eu des coalitions qui mêlaient communistes, démocrates, chrétiens, ça tenait pas longtemps, mais en même temps, ça permettait de passer des caps difficiles.
Oui, mais là, la différence, c'est qu'on aura quand même un président qui est d'ores et déjà extrêmement affaibli.
Qui surtout ne peut pas se représenter, c'est ça la.
Par ailleurs, malgré les convergences que Jean-Marie vient de décrire, ça n'a quand même pas empêché Olivier Faure, le patron du Parti socialiste, d'expliquer qu'il ne serait jamais le supplétif d'une majorité en déroute. Donc,
surtout avant un second tour.
Ça commence mal quoi pour la coalition parce que si déjà la France insoumise qui ne veut pas en faire partie et qui est exclue par ailleurs par les macronistes et tous les gens qui pourraient faire partie de cette coalition, il faut quand même à ce moment-là qu'il y ait quand même les écologistes, Marine Tondelier a l'air d'accord, il faut quand même qu'il y ait des gens du Parti Socialiste et ce qui restera de macronistes et puis sans doute un peu de LR.
Je pense qu'il faut attendre laisser passer le deuxième tour pour entendre les vrais.
On est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est à l'Assemblée plurielle, Gabriel Attal a parlé d'Assemblée plurielle. Si c'est pluriel, ça veut dire ça.
Mais Carole, il ne faut pas surdimensionner ou surévaluer ce qui peut y être de différence radicale, notamment pendant les périodes électorales, parce qu'on s'insulte en permanence. Mais en même temps, il faut regarder les grands sujets essentiels qui délient la nation. L'histoire des binationaux, c'est quelque chose qui porte, et le droit du sol, la renonciation au droit du sol, c'est quelque chose qui porte atteinte à l'identité française.
Jean-Marie Colombani, décembre, il y a une loi immigration qui est, en termes d'insulte à cette communauté, quand même un fait qui a aussi opéré une rupture franche avec à la fois la gauche c'est-à-dire que si vous parlez d'ailleurs, ils sont d'accord sur certaines choses, oui, mais ils sont vraiment pas d'accord sur beaucoup de choses. La réforme des retraites, cette question migratoire et les propos du président de la République sur la politique immigrationniste, souvenez-vous, ils ont une dizaine de jours. Là-dedans, on peut supputer, mais en vrai, même de manière strictement stratégique, on ne commence pas, en fait.
On a élu Jacques Chirac avec 82%.
Oui, mais c'était pas le même moment.
C'était l'homme du bruit et des odeurs.
Mais monsieur Colombani, c'est pas le même moment. Enfin, vous voyez bien qu'en fait, entre-temps, il y a eu 20 ans de barrage, monsieur Colombani. Et vous ne pouvez pas, à un moment, balayer si il n'y a pas en face, dans ce système potentiel de coalition, qui, je le redis, n'est pas discutable avant un deuxième tour. Si vous dites à ceux qui vont potentiellement vous élire que vous allez vous coaliser avec celui qu'ils détestent, Là, vous, enfin, rentrer chez vous, ça ne sert à rien, premièrement. Oui. Deuxièmement, on est sur un système parlementaire du même ordre au Parlement européen, vous êtes sur des coalitions de projets. On est sur un système qui indique, enfin, qui permet de vous coaliser, d'aller chercher des majorités à chaque fois. Raphaël Glucksmann en est issu, il sait très bien comment ça fonctionne. Ouais. Certains, en fait, ont cette, enfin, dans la classe politique française, ont cette, cette culture qui est celle aussi de nos voisins. Est-ce qu'on en est capable ? D'accord. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que, bah, dans le pot, bah, il y a la question de la réforme des retraites, il y a la question de la loi immigration, il y a la question, en fait, de.
Comme dans toute négociation.
Bah, oui, mais voilà. Mais donc,
comme
du coup,
C'est pour ça que François Hollande lui dit qu'il faudra se mettre d'accord sur un projet minimal,
bien sûr.
En évitant les questions urticantes.
Alors, il y a justement une question importante, Bruno, c'est que si le Rassemblement est sorti du jeu, non pas parce qu'il sera à l'Assemblée nationale, bien sûr, avec beaucoup de députés, mais s'il n'a pas la majorité absolue, ce gouvernement de coalition, évidemment, ne mettra pas le Rassemblement national dans son gouvernement. Mais comment est-ce qu'on s'assoit sur les 11 millions de voix qui ont été données au Rassemblement national sans apporter une réponse à ses électeurs et aux paniques morales, à la peur de l'effacement, à la peur au pouvoir d'achat, etc., et surtout à l'immigration? Comment on refait un peu nation avec ces gens-là ?
C'est clair que ce gouvernement qui se mettrait d'accord sur une plateforme minimale, comme le dit Carole, selon le mot de François Hollande, pourrait pas mettre grand-chose comme réponse, puisqu'on sort d'une campagne où, au fond, personne ne va avoir la majorité absolue à lui seul si le Rassemblement national rate la marche. Maintenant, on peut aussi, cette plateforme minimale peut aussi, d'une manière ou d'une autre, essayer d'apporter quelques solutions. Qu'est-ce qui motive le plus aujourd'hui les électeurs du Rassemblement national ? Point numéro un, le pouvoir d'achat. C'est ce qui ressort de toutes les enquêtes. Ouais. C'était aussi ce qui les a motivés pendant les européennes. C'est pour ça qu'ils ont sanctionné Emmanuel Macron. On peut considérer que c'est irrationnel, que le pouvoir d'achat a augmenté, que si, que ça. On a tous les arguments. Donc ça veut dire qu'il faut faire un signe. Si on veut envoyer un signal, il faut faire un signal. Moi, j'en vois pas beaucoup de possibles. Par une hausse du SMIC, je ne vois pas trop ce que peut faire un gouvernement qui se constituerait autour d'une coalition.
Et l'immigration ? Qu'est-ce que...
L'immigration, ils ne se mettront jamais d'accord. Ils ne se mettront jamais d'accord dans une coalition.
Donc comment...
Mais ça, l'immigration...
Comment éviter la bombinette en 2027 ?
Mais je pense que, je vous dis, le premier point, c'est d'abord le pouvoir d'achat avant l'immigration. Et le pouvoir d'achat, une plateforme minimale peut se mettre d'accord. Moi, je vois que le SMIC qui peut vraiment être assez concret, éventuellement, pour répondre à ces gens-là. N'oubliez pas que lorsqu'Emmanuel Macron a été mis en cause par la rue directement à l'occasion de la crise des Gilets jaunes en décembre 2018, il a sorti le chèque, il a fait un chèque de 11 millions.
Oui, oui.
C'est ce qu'il a fait. Donc, on verra.
Il n'a pas permis d'ailleurs de faire redescendre les colères.
Non, mais ça a quand même calmé le jeu pendant une bonne année parce que derrière, il a réussi à faire jeu égal avec le Rassemblement national aux européennes et il s'est fait réélire.
Comment on répond aux 11 millions de voix du RN
Moi, avec une coalition un peu de briques et de broc, c'est quand même de ça qu'il s'agira. Ou qu'il pourrait s'agir, je ne vois pas comment on répond à cette question-là, parce que Bruno a raison de rappeler qu'aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat qui est en numéro un des préoccupations
et de très loin
des électeurs qui se tournent vers le Rassemblement national, mais l'immigration est quand même...
Troisième.
Oui, mais ça dépend des périodes.
Peut-être. Sur toute la campagne européenne.
Laissez-moi juste finir. Je veux dire qu'aujourd'hui, c'est en préoccupation numéro 3, mais depuis 30 ou 40 ans, c'est-à-dire en fait, depuis
c'était pas le pouvoir d'achat à l'époque.
C'est de toute façon souvent dans les alors c'est numéro 5 ou numéro 4 ou voilà, mais enfin c'est toujours toujours partie des préoccupations.
Non mais le RN n'est pas né sur l'idée du pouvoir d'achat.
Mais je dis simplement que le RN a prospéré dans sa deuxième récemment sur la période contemporaine sur des questions. On peut considérer que c'est n'importe quoi ce qu'elle raconte. Rentrons pas dans le détail, mais c'est quand même aujourd'hui Marine Le Pen, elle a fait des différences face à Éric Zemmour en portant un programme sur le pouvoir d'achat, en ayant une réponse sociale. Alors on peut dire que c'est pas
c'est vrai. C'était le Pen père qui disait 3 millions de chômeurs, 3 millions d'immigrés. C'est-à-dire comment lier la question sociale à la question migratoire en disant on
supprime les impôts pour les moins de 30 ans. On peut dire que ça c'est n'importe quoi, mais ce sont des réponses.
Ça ne veut pas dire que le reste n'existe pas.
Non, bien sûr. Mais sur quoi ils peuvent se mettre d'accord ? Pas grand-chose. Ce sera impossible.
Mais je suis d'accord.
Il y a autre chose sur lequel il va potentiellement falloir agir, c'est la place des services publics. Typiquement, le Covid est passé par là. Ouais. Les Français, en fait, ça, c'est quelque chose qui remonte beaucoup. Le déficit de services publics, les questions de santé, en fait. Mais oui, mais ça entendre, par exemple, en fait, je ne crois plus à la politique. Je ne crois plus en l'État parce que l'État ne peut rien. Oui. C'est vraiment la phrase de Jospin en 2001 qui disait l'État ne peut pas tout. Ben, l'État, en fait, pour beaucoup de Français aujourd'hui, il a disparu. Donc comment remettre, c'est pas juste des maisons France Service comme on peut l'entendre, en fait, qui vont pouvoir. Non, mais je
parce
sais.
Parce qu'aujourd'hui,
dans les territoires où il n'y a pas de médecins.
Vous êtes quand même à l'heure du numérique aussi. Donc
oui, mais il y a beaucoup d'irrationalité. Il y a un tiers des Français qui souffrent d'illettrisme fonctionnel, d'incapacité à traduire ses besoins numériques, en fait, par eux-mêmes, d'une part. D'autre part, il y a aussi des coins où l'éducation nationale se casse la gueule, pardon.
Son programme, il avait confié la gestion du courrier à Amazon. Donc, je suis pas sûr que
Pour
autant, ils ont voté pour eux.
Bien sûr, mais je ne suis pas en train de dire que c'est une solution. Juste, cette question aussi des services publics et de ce sentiment de déclassement, de glissade, parce qu'il n'y a plus de services publics. Voilà, est vraiment réel.
Jean-Marie, qu'est-ce que les précédents gouvernements, si on remonte peut-être, aux années peut-être. Pas Giscard, mais si, parce que bon, il y a eu Giscard avait mis en place le regroupement familial, etc. Mais qu'est-ce qui dans tous les autres gouvernements a failli dans le fond?
C'est très difficile
pour avoir aujourd'hui cette situation. Alors, pardon, je finis juste mon propos, c'est-à-dire que il y a un contexte aussi mondial qui porte les vents mauvais, comme dirait Macron, dans le populisme, etc. Mais il y a aussi la situation française. Qu'est-ce qui est-ce que la gauche aussi a mal géré
on peut accuser tout
l'intégration,
le monde.
Etc.
Comment dire, on ne peut pas séparer ce qui se passe en France de ce qui se passe ailleurs. Il y a une grande vague populiste, nationale populiste, nationaliste et populiste, qui s'est saisie de beaucoup de démocraties, qui mettent d'ailleurs en jeu l'existence même de ces démocraties à terme, parce que les régimes vraiment populistes commencent par s'attaquer à l'état de droit. Et donc, voilà. Donc, après, comment dire. On peut difficilement oublier aussi que, pour regarder les résultats, 40% de vote RN, de vote d'extrémistes, etc., mais 60% de gens qui sont contre. Et donc, on ne peut pas non plus faire peser sur ces 60% de gens qui sont contre des moyens, des méthodes et des slogans ou des recettes qui sont des recettes purement démagogiques à l'adresse de ces 40%. Et on peut et de ce point de vue-là, il faut avoir en tête le modèle argentin. L'Argentine était un grand pays, puissant, développé, riche, et qui est tombé aux oubliettes de l'histoire et aux oubliettes du pouvoir d'achat tout court, et qui a précipité sa classe moyenne dans la misère par application successive de programmes populistes, qui sont à peu près le décalque de ce qu'on nous propose aujourd'hui. Donc voilà, il faut avoir tout cela en tête. Ce qui a été fait jusqu'à présent n'a pas transformé la France dans ce cataclysme et cet apocalypse qu'on nous décrit au RN, même s'il y a eu des choses qui ont manqué. Après, sur l'immigration, c'est vrai qu'ils auront tous du mal à se mettre d'accord. Mais sur l'immigration, on a l'expérience, là, in vivo, de ce qui s'est passé en Italie avec des slogans aussi radicaux que ceux que l'on entend aujourd'hui. On va stopper l'immigration, on va en finir avec l'immigration illégale. Et que fait Mme Meloni quand elle arrive au gouvernement? Elle commence par intégrer 450 000 travailleurs étrangers. Je veux dire, c'est par nécessité, parce que la démographie italienne l'impose. On est tous dans cette... Donc si on ne reprend pas la langue avec le pays, si on n'arrive pas à se faire comprendre, si on n'avait pas intégré la complexité des choses et le fait qu'il faut s'éloigner des slogans et des choses à l'emporte-pièce qui ne signifient rien, on ira dans le mur, on continuera d'aller dans le mur. Mais il ne faut pas croire que parce que 40% des Français auront voté pour des slogans qui sont inopérants, il faudrait punir les 60 autres pourcents en singeant ou en appliquant des méthodes qui sont de cette nature.
Ouais. Carole, comment on en est arrivé là? Un mot?
D'abord, on peut dire qu'on n'est pas obligé de reprendre le programme du Rassemblement national pour répondre à une partie de ces électeurs-là.
C'était la tendance de Macron d'aller au-devant des sur un certain nombre de sujets. Son glissement à droite était celui-là. Ce qui a été cité tout à l'heure.
L'immigrationnisme.
L'immigrationnisme. Pardon, Carole.
La loi immigration, elle ne concernait, qui a beaucoup divisé, etc., dans la majorité, mais elle concernait essentiellement le sort ou le statut de gens qui étaient sur le territoire français. Elle ne parlait pas vraiment de maîtrise des flux migratoires. Il n'y avait pas.
Non, parce que c'était le pacte asile-immigration qui était par ailleurs en négociation du côté européen en même temps.
Mais la loi immigration, elle visait surtout, au fond, à essayer de réduire ce que la droite appelle les appels d'air et à simplifier les procédures de demande d'asile et des choses comme ça. Bon, donc on n'est pas obligé de reprendre pour répondre, parce que moi je veux bien Jean-Marie, mais
non, mais
on peut pas
ignorer.
Non, mais
ça veut pas dire qu'il faut pas de réponse, bien sûr.
Ben oui,
bien
mais
sûr, il y a des sujets
c'est
sur
un
lesquels
peu ce
il faut
que
répondre.
Vous aviez tendance à dire.
Je me suis fait mal comprendre. Alors, il y a des réponses qui sont nécessaires, mais ces réponses, il faut surtout pas aller les chercher du côté des thématiques qui sont mises en avant par l'Assemblée nationale.
Avant les réponses.
Les problèmes, on les connaît.
Excusez-moi, avant les réponses, il faut entendre. Ouais. Il faut entendre. Et je suis désolée, mais ça fait quand même maintenant 40 ans que le Front National monte, régulièrement. Et là, voilà où on en est aujourd'hui. Et on a vraiment le sentiment que la gauche et une grande partie de la droite modérée, est tellement gênée par le sujet qu'elle préférait ne pas entendre les messages qui étaient envoyés à chaque élection.
Mais parce
seul moment où le Rassemblement National, qui était encore le Front National d'ailleurs, je pense, a un peu baissé, c'est au moment en 2007, de l'élection de Sarkozy. Mais sinon, on passe du coup de barrage et de Front Républicain en nouveau barrage et en nouveau Front Républicain.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure, la lassitude.
La lassitude d'une part, mais d'autre part, ce que Carole dit, c'est-à-dire, est-ce qu'on entend les Français ? Est-ce qu'on les entend ? Enfin, il suffit d'écouter. Les Gilets jaunes le disaient très bien sur les ronds-points, en disant, en fait, on parle, mais qui nous écoute ? Qui, en fait, fait en sorte que nos problématiques du quotidien soient réglées aujourd'hui ?
Les 11 milliards que rappelait Bruno.
Il semblerait qu'en termes... Enfin, ça a été mangé par l'inflation. Vous avez aujourd'hui 9 millions de pauvres.
La prime d'activité était quand même augmentée fortement.
Je vais aller au bout de mon propos. En l'occurrence, il y a toujours 9 millions de pauvres. Tout ceci est en train d'augmenter. On voit des familles, notamment monoparentales, en fait, qui sont dans l'incapacité de gérer le quotidien. L'augmentation des flux gaz, électricité, etc., etc., c'est 30%. Donc, cette réalité-là, qui concerne en fait une grande partie des Français. Moi, j'ai encore une maman il y a 3 semaines qui m'expliquait que elle allait en fait au Resto du Cœur et que la boîte de ravioli, parce qu'elle ne pouvait pas se permettre en fait d'avoir 3 repas par jour, elle en faisait bénéficier ses enfants, et pour pas qu'ils s'inquiètent, elle mettait de la sauce avec un peu de pain en disant mais regardez, j'ai mangé avant vous, vous inquiétez pas. Voilà la réalité d'une partie des Français, c'est ça. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Est-ce qu'on a répondu à ça? Non, on n'a pas répondu à ça. Sur les services publics, on n'a pas répondu.
Non, sur l'hôpital, on n'a pas répondu.
Clairement, il y a à la fois la dimension d'abandon, et puis, de manière plus large, vous avez aussi des classes moyennes qui, depuis cette crise, glissent et qui vous disent « j'ai peur de l'avenir dans un monde incertain », qui est aussi très complexe aujourd'hui à concevoir, à comprendre, et qui donne de l'angoisse, clairement. Ouais. Et ben, de fait, quelle réponse on a à donner? Et ça, c'est pas quelque chose de simple, je dis bien. Mais là-dedans, peut-être que de manière plus large, si on avait des politiques et même des débats qui médiatiquement en fait sont un peu plus ancrés et donnent à entendre en fait cette parole-là avec, et moi je l'entends beaucoup sur le terrain, quelque chose qui ne soit pas une forme de déconnexion de ceux qui portent la parole politique et qui sont finalement très éloignés de cette réalité, et ben peut-être qu'on n'en serait pas là.
Bruno, vous aviez l'air de dire que quand même, il y a eu des primes.
Non mais ça ne change rien au résultat. Il y a quand même eu, pendant toute cette période, de manière peut-être pas suffisante, mais il y a quand même eu des périodes où le pouvoir a vraiment sorti le chéquier, enfin, qu'on le veuille ou non. Oui, après, oui, les Gilets jaunes, 11 milliards, c'était énorme. Pendant la crise, inflationniste, la France a probablement été l'un des rares pays à avoir une politique qui a été critiqué d'ailleurs. Les mêmes qui la critiquent sont aujourd'hui ceux qui disent qu'ils n'en ont pas fait assez, c'est-à-dire la politique des boucliers énergétiques, des chèques... elle était très importante, il n'y a pas l'équivalent en Europe.
Non,
pas
personne n'a fait ça.
Il y a pays en Europe qui a fait autant.
Et puis le sauvetage des salariés, des entreprises, du pays, pendant le Covid, avec le quoi, c'est considérable, c'est colossal.
Ça a d'ailleurs personne n'a dit le contraire.
Ça a d'ailleurs provoqué l'explosion de la dette. Oui. Donc voilà, c'est ça.
Aujourd'hui, les mêmes
reproches. Fallait-il aussi largement distribuer
au
même... Mais non, mais voilà, mais on ne va pas...
Ah bah oui, mais là...
Non, non, ça c'est...
Vous voulez dire mieux ciblé ?
Non, mieux ciblé. Souvenez-vous des problématiques qu'on avait eues avec le CICE, qui était porté par François Hollande notamment et son gouvernement.
Ça, c'est autre chose.
200 Nora. Milliards sans véritable conditionnalité.
Oui,
mais voilà. Mais en fait, à un moment, cette question de conditionnalité, elle se pose aussi.
Mais l'échec énergétique, il y avait des conditionnalités. Ça, c'est incontestable. La prime d'activité au moment des Gilets jaunes, elle ne concerne pas tout le monde. Donc, il y a eu ça. Mais. C'est comme ça, enfin voilà, à chaque fois c'est oublié, et peut-être que c'était
pas suffisant. Je crois pas que ce soit oublié, je pense que
c'était
pas aussi mangé par l'inflation.
Mais ça a coûté cher à l'État, et à un moment l'État a dit, on arrête la politique du bouclier
énergétique. Non mais précisément, moi je pense que l'erreur qui a été faite en partie par le gouvernement, enfin et Macron, c'est de penser que les Français pouvaient au fond leur être redevables et les créditer d'avoir fait tout ça. Et on sait très bien que ça n'est jamais le cas. C'est-à-dire que les mesures qu'on peut prendre en économie pour soutenir telle ou telle profession, tel secteur d'activité, telle catégorie de population, en fait, à l'arrivée, ça ne leur est pas crédité. Et donc, il aurait peut-être dû agir sur ce qu'on appelle dans le domaine régalien. Et en dehors de l'immigration, il y a aussi, le problème de la sécurité. Les Français qui ont vu quand même le printemps... un adolescent de 15 ans pratiquement chaque semaine qui se fait tuer par des copains ou des ex-copains à lui, etc. Enfin, je pense que du coup ils auraient dû avoir conscience que malheureusement, c'est vrai, on ne tient pas compte des explications rationnelles. C'est vrai que la dette explose en partie parce qu'on a fait plein de choses pour le Covid, etc. Mais donc fallait agir peut-être sur d'autres terrains.
Jean-Marie ?
Non, mais ça, là-dessus, je suis d'accord. Simplement, on ne peut pas dire ils ont fait ça, mais finalement, c'était trop. Donc, si on fait peu, ce ne sera pas assez. Je veux dire, il y a un moment où il faut quand même essayer de poser les choses et de regarder les choses avec un petit peu plus de distance que d'être tout de suite au nom du ressenti. Le ressenti étant le maître mot de la politique aujourd'hui, c'est le ressenti.
Souvenez-vous de ce sentiment d'insécurité que la gauche avait balayé en 2001, c'est ce qui leur a coûté l'élection.
Exactement.
Le ressenti est extrêmement central.
Le ressenti, c'est politique.
Voilà, exactement. Ressenti de déclassement est important.
Si le ressenti est trop, il y a trop d'immigrés, et donc je ne veux pas voir de visage arabe dans mon entourage, je ne veux pas voir de blagues dans mon entourage. Bon, si c'est ça, ça n'est plus la France. Et donc, je pense que dans tout ce qu'on vient de dire, il y a plein de choses qui sont légitimes de la part des gens qui ressentent ça. Je pense en effet que ce qui aurait dû alerter le gouvernement depuis longtemps, c'est les chiffres du Secours catholique, du Secours populaire, des Restos du cœur, qui montrent en effet que beaucoup de gens sont passés de la précarité
à
la pauvreté. Oui. Et ça, c'est évidemment, ça devrait être l'article 1 de toute politique. Mais cela dit, on ne peut pas non plus à la fois tout attendre et faire comme si rien ne s'était passé. Et en attendant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a une urgence. Est-ce qu'on considère que c'est une urgence ou pas ? Cette urgence, c'est le pouvoir au Rassemblement national. Pourquoi ? Non pas parce que s'il était devenu un parti comme les autres, très bien, ce serait une force d'alternance comme les autres. Mais il met en cause l'identité française à travers les binationaux et à travers le droit du sol. Il met en cause l'état de droit à travers le non-respect de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le non-respect de la fonction présidentielle et j'en passe. Et il met en cause les alliances de la France en étant ouvertement pro-russe. Donc est-ce que c'est cela qu'on doit considérer avant toute chose ? Et puis après, on verra. Et on choisira des gouvernements qui seront, etc. Ou est-ce qu'on laisse passer, on laisse filer, et au nom du fait...
Oui, un mot
très court.
Oui, très court, rapidement. En attendant, on voit bien
le regard des voisins.
Du côté de Bruxelles, du côté de nos, enfin, des Allemands, etc. Tout le monde regarde tout ça en chaîne faïence en se disant pourvu que. Et Emmanuel Macron est aujourd'hui considéré un peu à l'image de David Cameron au moment où celui-ci a déclenché le référendum sur le Brexit. Et c'est absolument terrifiant, en fait, de voir à quel point l'image de la France et d'Emmanuel Macron s'est écroulée en l'espace de quelques semaines.
Cameron est pertinent, c'est un paradoxe au moment parce qu'avec beaucoup de désinvolture, il est allé vers le Brexit. Oui, mais il a fallu quand même quelques solides années d'expérience et de catastrophe
que le Brexit était une catastrophe.
Il fallait ensuite.
Et ça va quand même se terminer par une sacrée valise.
Ça donne l'espoir à la gauche du gouvernement et à la gauche sociale.
Il n'y a rien d'immigrés qu'il a fallu envoyer en Grande-Bretagne pour tenir l'économie. Voilà. Take back control, disait-il.
Merci à tous, merci à Flore Simon et merci à toute l'équipe technique. On se retrouve dimanche soir sur France 24, la soirée électorale en partenariat avec LCP. À très vite, merci.